RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Press, l'actualité débattue sur RFI et TV5 Monde avec Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, Pierre Benoît pour TV5 Monde et puis Laurent Larcher du quotidien La Croix. Et c'est autour de trois sujets hein, cette semaine. En Gambie, c'est l'investiture du président Adama Barrow sous le double signe de la restauration de l'état de droit et de la relance des relations de bon voisinage avec le Sénégal. La Centrafrique secouée de nouveau hein, par des tensions armées alors que la médiation de la crise est passée du Congo-Brazzaville à l'Angola. Enfin, au Congo-Brazzaville, la mort suspecte en prison de Marcel Tsourou, l'ex numéro 2 des renseignements. Après sa disgrâce, il s'était mué en pourfendeur du régime de Denis Sassou Nguesso. D'abord donc la Gambie, hein, un mois après avoir prêté serment au Sénégal, à Dakar, dans l'enceinte de l'ambassade de Gambie au Sénégal, eh bien Adama Barrow a donc été officiellement investi dans son pays à Banjul, la capitale, et c'était vendredi dernier. Parmi les premières mesures d'Adama Barrow, hein, après son investiture, il a décidé de libérer tous les détenus sans jugement. Et puis, loin de Banjul, en Suisse, eh bien, l'ex-patron de l'Agence nationale du renseignement, autrement dit la machine de répression de l'ex-président Djamé, a été arrêté en Suisse. Donc, voici là, Pierre, en quelque sorte, deux actes forts en ce qui concerne cet engagement d'Adama Barrow de restaurer l'état de droit en Gambie.
C'est évidemment le premier dossier du nouveau régime, puisque après 22 ans d'une dictature puctatione, extrêmement sévère, eh bien, il va falloir remettre en place un état de droit et réconcilier le pays avec lui-même. En démantelant le système dictatorial, la question numéro un derrière l'arrestation du patron des services secrets, ça sera le sort du président Djamé, mais là-dessus, la CEDEAO a donné des garanties. Et c'est pas un hasard si le choix de la Guinée équatoriale a été fait pour lui permettre de faire en tout cas la première partie de sa retraite, puisqu'il y a une espèce d'impunité qui existe. Le système est un système très protecteur pour un dictateur en exil, finalement.
Alors, Francis, hein, Adama Barrow a également décidé de renouer pleinement avec la communauté internationale. C'est notamment sa décision de renouer avec le Commonwealth, de renouer précisément avec la Cour pénale internationale, la CPI, deux institutions que Yahya Djamé avait, donc, avec lesquelles Yahya Djamé avait décidé de rompre surtout pour convenance personnelle. Là aussi, ce sont deux signes forts.
Vous faites bien de dire que c'était pour convenance personnelle. Ce sont des signes forts, d'autant que Adama Barrow déclarait le 18 février dernier que son pays rejoignait enfin le cercle vertueux des démocraties. Il y a aussi un élément qu'il faudra surveiller de près, c'est que Adama Barrow avait indiqué après son élection qu'il allait rester au pouvoir pendant 3 ans parce que ce n'était pas son métier en quelque sorte, c'était pas son activité principale, pour ensuite donc céder le pouvoir à l'opposition. Parce qu'il faut rappeler que le candidat de l'opposition avait été embastillé par le satrape de Banjul hein, à l'époque, donc ne pouvait pas se présenter et que Adama Barrow intervenait comme
un candidat
de recours et de remplacement.
Voilà. Alors Laurent, toujours après cette investiture de Adama Barrow, dont l'invité d'honneur était le président sénégalais, Macky Sall, entre le Sénégal et la Gambie, hein, territorialement imbriqués, est-ce qu'on peut penser que les deux pays peuvent reformer cette fameuse confédération de la Sénégambie que les deux pays ont connue entre 1982 et 1989.
Oui, il me semble qu'il y a effectivement une formidable opportunité historique de retrouver, enfin d'en finir avec ces frontières un peu absurdes liées à une colonisation faite à la canonnière, sans respecter, je dirais, les cultures, les traditions et les communautés sur place. Là, on a pour le coup, alors évidemment pas pour demain, mais enfin pour après-demain, en tout cas un axe très intéressant d'une intégration de la Gambie ou d'un retour de la Gambie dans le Sénégal. Alors ensuite, on peut imaginer différentes possibilités, peut-être une forme d'autonomie hein, ou une fédération, mais c'est une formidable opportunité. On aurait là deux poumons, un poumon anglophone et un poumon francophone. francophone, mm-hmm. pour une une partie de l'Afrique de l'Ouest, ça serait absolument formidable.
Mais aussi en faveur de la paix.
Et voilà. Et ensuite, du point de vue de la géopolitique, là, un pôle de stabilité mm-hmm. très intéressant, et je dirais aussi une forme de création d'une dynamique positive qui pourrait entraîner derrière elle d'autres blocs un peu tendus.
Deux mots avant qu'on passe à la Centrafricaine.
Clairement, c'est un très grand succès de la CEDEAO, hein. Un succès diplomatique très important. Et à la tête de cette opération de retour dans le bercail de la démocratie, il y a deux pays, hein. Il y a la Guinée-Conakry avec le rôle qu'a joué Alpha Condé et Macky Sall, le Sénégal, qui va en tirer bénéfice immédiatement puisque ça va permettre de soulager, en tout cas de remettre sur des rails le traitement de la crise de Casamance, puisque un des problèmes, c'est justement l'enclavement. Et donc, si les frontières sont poreuses, si la Gambie peut commercer normalement avec le Sénégal, eh bien, très naturellement, il y aura une dynamique régionale au plan économique et politique.
RFI TV 5 Monde, Afrique Presse, on passe à notre deuxième sujet. La Centrafrique, hélas, toujours dans la tourmente. Hein. Deux factions armées de l'ex-Séléka sont aux prises hein, dans le centre du pays. Le FPRC de Noureddine Adam et l'UPC, dont le chef de guerre, Ali Ndaras, a été lui chassé hein, de Mabari par les casques bleus de la MINUSMA. On écoute à ce propos le porte-parole de la mission de l'ONU, Vladimir Montero.
Et avec l'UPC, l'une des demandes de la MINUSCA, c'était qu'Ali Daras quitte la ville, parce que la MINUSCA voulait éviter une guerre dans Bambari, voulait protéger la population civile et voulait s'assurer que les activités humanitaires se poursuivraient normalement. Ali Daras est parti, n'est-ce pas ? Il a quitté la ville, il est en Centrafrique et nous continuons à travailler pour que, d'une part, l'UPC, les hommes de l'UPC quittent la ville et que de l'autre côté, le FPRC s'abstienne d'attaquer la ville. Et s'ils le font, la MINUSCA prendra toutes les mesures.
Vladimir Montero, le porte-parole de la MINUSMA. Alors, il faut saluer, Pierre-Benoît, cette action vigoureuse hein, des casques bleus de la MINUSMA contre l'UPC, contre leur chef à Bambari. Mais le problème sécuritaire majeur en Centrafrique, tout le monde le sait, c'est que plus de la moitié de ce pays est encore sous la coupe de groupes armés.
Oui, 60 voire 70% de la RCA n'est pas sous contrôle de l'État. Le président Touadéra a un problème majeur, c'est tout le processus DDR, hein, désarmement, etc. Et il n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas finalement trouvé un compromis politique transitoire, en tout cas avec les chefs de milice. On avait là deux partis politico-militaires, deux factions armées qui sont affrontées à Bambari avec l'État. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de dynamique sécuritaire dans un processus classique DDR s'il n'y a pas une reprise politique avec ces chefs de guerre, ces chefs de faction qui se comportent véritablement en pilleurs, etc. Puisque toute la partie nord, il y a la question des minerais, toute cette zone est contrôlée par des chefs de guerre qui se nourrissent économiquement, qui ont leur indépendance économique, qui maintiennent une pression permanente sur la population parce que la grande victime, c'est toujours La population.
Alors Pierre-Benoît vient de soulever, Francis, un problème important. C'est que finalement, la plupart de ces chefs de guerre, y compris M. Adam et son rival du moment d'Arras, sont d'abord principalement motivés par la prédation, c'est-à-dire l'accaparement de richesses minières. Alors, au-delà de leur personne et de leur satrape, à qui profite finalement ce chaos ? On a envie de regarder aussi à l'extérieur de la Centrafrique.
C'est un chaos systématisé et qui dure. On a affaire à des groupes armés qui n'ont pas une revendication précise, mais dont l'objectif principal est la captation de territoires et la gestion de ces territoires-là. La question est de savoir quelle est la véritable mission de la MINUSCA, en réalité. Parce que vous vous souvenez quand même qu'il y a un peu plus d'un an, on nous avait, entre guillemets, vendu le processus électoral comme étant l'accélérateur idéal de la restauration de la paix en Centrafrique.
Avec l'insistance de la France, notamment.
Avec l'insistance de la France, hein, et de la MINUSCA aussi, hein, de l'ONU, bien sûr. Un an plus tard, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, on constate évidemment une multiplication des fronts de conflit, entretenus essentiellement par ces groupes armés. Une intensification également des affrontements interconfessionnels. Une multiplication des actes de captation de territoire et d'occupation de territoire. Alors, face à cela, que fait la MINUSCA ? En janvier dernier, la MINUSCA avait émis un communiqué tout à fait intéressant pour juger de la situation en Centrafrique. Ce communiqué indiquait, en fait, que, de cette manière, la MINUSCA était en train de faire de la médiation entre deux groupes armés, le FPRC en question et l'UPC, pour que ces deux groupes armés ne s'affrontent pas. C'est-à-dire qu'en fait, une mission de l'ONU qui est envoyée pour éradiquer la violence dans un pays.
Mais c'est une façon de dévoyer cette mission.
Mais c'est une manière aussi, justement, d'entériner finalement la persistance des actions de ces groupes terroristes sur le territoire centrafricain. La seule solution en Centrafrique, alors, où on y adhère ou on n'y adhère pas, mais à ce moment-là, il faut être précis sur ce qu'on attend évidemment de toutes ces missions internationales, c'est de désarmer, de mettre en place un désarmement radical de ces groupes et d'en finir définitivement. Si on ne le fait pas, c'est que d'une certaine manière, on intègre, on accepte, sans le dire, le fait qu'aujourd'hui la Centrafrique est une zone de non-droit, un état zéro, un territoire occupé par des groupes armés, une sorte de Mad Max des temps actuels.
Alors, pas de sortie de crise par des négociations politiques, les atermoiements avec ces groupes armés ne donnent rien, y compris donc de l'amunissement, comme vient de nous l'expliquer très clairement Francis, Laurent. Alors, à la demande du président tchadien, Idriss Déby, le grand patron de la région, le président angolais, Eduardo dos Santos, a pris le relais de Denis Sassou Nguesso pour assurer la médiation de la crise centrafricaine. D'abord, la plupart des forces politiques et des mouvements de la société civile lui reprochent de les ignorer totalement. Ça, c'est un point. De l'autre, qu'est-ce que Eduardo dos Santos peut faire plus pour arriver effectivement à pacifier une bonne fois pour toutes, je dirais, sans passer par payer finalement la paix à ces chefs de guerre?
Je voudrais quand même, avant de répondre à votre question, attirer votre attention sur le fait que c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile. Tout le monde s'est cassé les dents sur la question du désarmement des groupes, parce que c'est extrêmement dangereux. Quel pays extérieur à la Centrafrique est prêt à faire tuer ses soldats, parce qu'il s'agit de ça quand même, au nom d'un désarmement? Il faut en arriver là, bien entendu, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. Les Français se sont cassés les dents sur cette question-là. Les casques bleus n'arrivent pas depuis leur arrivée à ce but-là, parce que c'est extrêmement difficile.
Que peut faire l'Angola?
Alors attendez, je voudrais aussi ajouter un autre point, parce que vous l'avez pas abordé. Pour Bambari, il y a un autre front dont on parle pas. Évidemment, il y a la rivalité entre les deux groupes ex-Séléka. Et là, on voit que l'ONU est en train de remettre un peu d'ordre sur cette question-là. Mais que vont devenir les musulmans de Bambari? Parce que en face, il y a aussi les groupes anti-Balaka,
c'est ça,
qui eux aussi ne sont pas des
saints, ouais,
et qui veulent leur revanche. Moi, j'ai assisté à Bambari, hein, déjà à ces règlements de compte en avril 2014 et mai 2014, lorsque les Français sont arrivés. La force Sangaris arrivant à Bambari, le rapport de force entre les communautés avait changé. Et à cette occasion-là, des groupes anti-Balaka se sont constitués et ont commencé le match retour dans les répressions intracommunautaires. Et ça, il faut que l'ONU se rende compte que, en voyant Daraz partir de Bambari, et c'est une bonne chose, les musulmans...
C'est une protection des musulmans aussi.
Les musulmans ont perdu un protecteur et seront-ils capables de les protéger, parce que là, on est à la veille, sans doute, de règlements de compte extrêmement brutaux et violents.
Alors, pour l'Angola, en deux mots.
Alors, pour revenir à l'Angola...
La médiation.
La médiation, le pays qui contrôle, qui a la solution, c'est bien sûr le Tchad. Voilà. Et c'est Idriss Déby qui, bien sûr, est le grand
ordonnateur,
qui joue sur l'échiquier et qui, je crois, joue sur deux tableaux et verrait assez bien, il me semble, le nord de la Centrafrique venir ou se rattacher à son grand projet d'un grand Tchad.
Oui, dernier mot, Francis.
Je dis quand même qu'il y a eu plusieurs médiateurs entre-temps, parce que bon, le Tchad, moi, il me semble que le Tchad est plutôt un peu plus en recul aujourd'hui par rapport à la Centrafrique. Il y a le Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, en fait, c'est un acte politique que d'envoyer l'Angola.
Oui, mais c'est important de rappeler quand même que l'Angola est entrée dans le jeu à la demande du président tchadien, ce qui est quand même, à mon avis, n'est pas non plus neutre.
Alors, la question, c'est que si vous pensez que, si votre question est de savoir si ça va faire avancer le dossier centrafricain, je pense que non. Je pense qu'on est en train tout simplement d'instaurer une gestion durable d'un État failli.
RFI TV 5 Monde, le dernier sujet d'Afrique Presse. La mort suspect en prison au Congo-Brazzaville du colonel Marcel Tsourou, l'ancien numéro 2 des renseignements congolais, avait aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir dans les années 90, tombé en disgrâce en 2012 après avoir été accusé d'être l'instigateur de l'explosion de la caserne militaire de Mpila qui avait dévasté plusieurs quartiers de Brazzaville, la capitale, la même année, en 2012. Il est condamné en 2013 à perpétuité pour rébellion et détention d'armes de guerre après l'assaut qui avait été lancé contre sa résidence à Brazzaville. Voilà en gros les faits. Alors, les conditions de la mort de Marcel Tsourou, Pierre Benoît, sont donc jugées très troublantes. et ses proches estiment que ces menaces répétées d'un grand déballage contre Denis Sassou Nguesso le mettaient en danger.
Hassan, les murs de la prison militaire de Brazzaville vont-ils garder leur secret pour toujours? C'est pas sûr, parce que effectivement, cette brusque accident cardiovasculaire, puisqu'il est tombé dans le coma, et sa mort annoncée par les autorités militaires de la prison.
On n'a pas encore de résultat d'autopsie.
Non, on n'a pas. Le communiqué du médecin chef de la prison, et parle donc de, il est rentré dans le coma, il est mort tout de suite après. C'est pas très crédible, vu le personnage, parce que, comme vous le rappeliez, on l'a impliqué dans l'affaire de l'explosion qui avait dévasté avec 300 morts la capitale congolaise. Historiquement, on sait que c'est un des piliers du régime. Ce qui est extraordinaire dans l'affaire de Tsourou, et c'est pour ça que sa mort paraît complètement suspecte, c'est que c'est un ancien pilier du régime, numéro 2 des services secrets, qui a joué un rôle décisif dans le retour de Sassou Nguesso au pouvoir en 99, puisqu'il dirigeait le Front Nord, hein, c'est-à-dire toute la région de Pointe-Noire. Et d'autre part, le fait que après, il a travaillé complètement avec ce régime, notamment dans l'affaire des disparus du Beach, hein, la fameuse disparition de 350 Congolais qui étaient revenus au pays. Et donc, c'est ce pilier du régime qui devient tout d'un coup la bête noire, parce que il était colonel et il voulait passer général. Et il a fait sans doute une erreur tactique, comme on dit chez les militaires, dans un discours qu'il a tenu en public devant un certain nombre de fidèles, de soldats, etc., et d'officiers qui l'accompagnent dans sa carrière. Il a fait une déclaration en disant, mais c'est l'été qui...
Je suis Bocchi.
Oui, Bocchi, et c'est le groupe du président qui veut m'interdire mes étoiles de général, voilà. Donc il est rentré en disgrâce, etc. Donc c'est une fable à usage finalement d'une dictature militaire qui fonctionne avec une apparence de système démocratique, etc., mais qui n'arrive pas à faire de transition parce que finalement ce système dévore ses enfants.
Voilà. Alors l'opposition réclame, Francis, une enquête internationale, hein, pour en savoir un peu plus sur cette mort mystérieuse de Tsourou. Un de ses avocats a lui été interpellé samedi dernier, car il serait le dernier visiteur de Tsourou juste avant sa mort, ce qui est normal dans la procédure, estime le bâtonnier des avocats congolais.
C'est pas normal du tout d'ailleurs, puisque maître Ludovic Essou, qui est toujours en garde à vue au moment où
cette émission ce vendredi matin.
L'arrestation d'ailleurs jugée illégale par les avocats du barreau de Brazzaville et de Pointe-Noire.
Le bâtonnier disait que dans la procédure c'est normal.
Oui, mais vous savez, le bâtonnier
c'est le bâtonnier parmi d'autres avocats.
C'est un porte-voix de pouvoir, le bâtonnier.
Hein.
Bon, il a quand même en face de lui, les avocats du barreau de Brazzaville et de Pointe-Noire qui sont mis en grève pour protester contre les conditions de l'arrestation illégale, jugée légale, de maître Ludovic Essou, donc un des avocats du colonel Nsourou.
Arrestation rideau de fumée.
Je vais vous dire simplement pourquoi cette arrestation est illégale, parce que le pouvoir lui-même, non pas l'autorité judiciaire, a indiqué que maître Essou était arrêté en tant que témoin. Or, on n'arrête pas, on ne garde pas à vue un témoin.
C'est ça.
Et une garde à vue prolongée, d'ailleurs, qui a été donc reconduite. Un témoin n'est pas gardé à vue.
Voilà. Alors, Laurent, est-ce qu'on connaîtra un jour le fin mot de l'histoire, hein, sur cette mort de Tsourou, mais aussi sa disgrâce? Pourquoi, finalement? Alors, on a parlé de frustration, ensuite il s'est mis à taper sur le régime. Cela dit, ce monsieur en savait long, hein, sur la face obscure de ce pouvoir. On l'a dit, les disparus du Beach. Lui-même était un des acteurs de ce régime, en tout cas de cette face obscure du régime, avant de se retourner contre le système. Peut-être que le système a fini par le broyer.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez ce roman d'Anatole France qui s'appelle Les dieux ont soif, qui est un roman sur la Révolution française et qui montre comment en 1793, la Révolution se retourne contre ceux qui l'ont faite. Voilà, et bien
il faut dévorer ses enfants.
Tout à fait, c'est Cronos qui dévore ses fils. Donc, nous sommes dans une problématique assez classique d'une dérive d'un régime très autoritaire qui ne supporte pas ses concurrents.
Il y a d'autres cas, et qui interroge
sur les pratiques politiques de ce pays. Il faut rappeler qu'il y a d'autres opposants qui sont enfermés, notamment le général Mokoko,
qui sera jugé en mars prochain, dit-on. Voilà.
Mais aussi Salissa, enfin, tous ces candidats à l'élection présidentielle qui sont tombés pour des histoires un peu bizarres, vues de France. On est là devant une dérive spectaculaire d'un régime aux abois.
Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci Laurent Larcher, Francis Laloupeau et Pierre Benoît, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette édition est disponible sur sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.